émission Le quotidien des quotidiens, édition du jeudi 19 avril 2018. Hélène Denis avec vous. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, vous-même?
Ça va bien, merci. Mm-hmm. Dernière journée pour moi, puisque demain je serai en congé et c'est François Brodeur qui sera à la mise en onde. Et vous ne serez pas là non plus.
Vive le week-end. Non, pas demain matin, moi je serai là demain soir.
Oui, ouais, c'est vrai.
Au Kaléidoscope, animé par Fulgence Blas. Et là, j'ai un trou.
Les voix de service? Non, les voix de la nuit.
Les voix de la nuit, oui, avec Estelle.
Et Catherine.
Catherine Bourderon. Oui, et Estelle Boulnoir.
Bon, voilà. Alors, vous serez bien occupés.
Oui.
Oui, on vous retrouve un petit peu partout dans la grille horaire de Canal M.
À gauche et à droite.
Alors, est-ce que vous avez eu le temps de préparer une chronique éphémérine?
Assez tranquille aujourd'hui, donc pas de journée internationale ni mondiale. On commence en 1627, le cardinal de Richelieu, oui, crée la Compagnie des Sans-Associés pour développer la Nouvelle-France. En 1775, c'est le début de la Révolution américaine. Les États-Unis naîtront un an plus tard. En 1829, le Venezuela proclame son indépendance. En 1883, le feu ravage le Parlement à Québec. En 1897, c'était le premier marathon de Boston. Donc, cette année, en 2018, c'était le 121e événement qui a eu lieu, je crois, en début de semaine, lundi passé. En 1927, un peu potin, à New York, l'actrice Mae West est condamnée pour indécence pour son spectacle Sexe à Broadway.
En quelle année?
En 1927, donc les gens étaient un peu plus prudes. En 1943, Varsovie, c'est le soulèvement du ghetto qui éclate contre les occupants nazis. 13 000 juifs y trouveront la mort. En 1945, création de Radio-Québec par le gouvernement de Maurice Duplessis. L'organisme ne commencera cependant qu'à diffuser qu'après l'événement de la télévision. En 1968, René Lévesque est acclamé par 4 000 personnes aux premières assises du mouvement Souveraineté Association, qui est l'ancêtre du Parti québécois. En 1999, oui, le Parlement allemand siège à Berlin pour la première fois depuis la guerre. En 2005, les cardinaux réunis en conclave au Vatican élisent l'Allemand Joseph Ratzinger, 78 ans, qui deviendra le 265e pape de l'Église catholique, qui sera connu comme Benoît XVI, j'allais dire Benoît XVI, comme dans les Astérix, jusqu'en février 2013, donc il démissionnera pour devenir pape émérite. Pas de naissance à souligner aujourd'hui, et des décès en 1906, décédait Pierre Curie, le physicien et chimiste. Il était né en 1859, donc mort assez relativement tôt. Et en 1882, mourait Charles Darwin, l'auteur de la théorie de l'évolution, qui lui était né en 1809. Ça fait le tour de ce 19 avril.
Théorie pour certains qui demeure une hérésie, mais ça, c'est un autre dossier.
Oui, c'est une autre histoire.
Ouais. Merci beaucoup, plaisir. Maurice. À la une de la presse de ce jeudi 19 avril, prison de Bordeaux, des comités écrits entre guillemets, emmènent large. Des détenus dictent leurs propres règlements, se réservent une part du tabac et de la drogue des nouveaux prisonniers et gèrent les demandes aux gardiens. Une enfant de 2 ans retrouvée morte à Charlebourg. Une pension alimentaire record. 1,14 million par année. La chronique de Rima El-Khoury intitulée « Le plus obscène ». La chronique de Jean-Philippe Descaries à « Quand le litre d'essence à 2 $ ?» Et dans la mise à jour de la presse, une femme de Québec âgée de 23 ans a été arrêtée par la police pour le meurtre de sa fillette âgée de 2 ans et devrait comparaître à cet effet au tribunal jeudi matin, ce matin, au Palais de justice de Québec. Le service de police de la Ville de Québec a confirmé jeudi matin que le dossier avait été transmis à la Direction des poursuites criminelles et pénales. Le cadavre de la petite Rosalie Gagnon, dont la disparition avait été signalée plus tôt en journée. mercredi, a été trouvée dans une poubelle située à côté d'une résidence unifamiliale du quartier Charlebourg. La mère, Audrey Gagnon, a quant à elle été localisée par les policiers dans une résidence. Elle a été emmenée en compagnie d'un homme à un poste de police. L'homme a été libéré plusieurs heures plus tard. Quant à Audrey Gagnon, elle a été interrogée pendant plusieurs heures avant que son arrestation soit confirmée à 6h45 jeudi par le SPVQ. Une autopsie sera pratiquée sur le cadavre de la petite Rosalie afin de déterminer avec exactitude la cause de son décès. Et toujours dans la mise à jour de la presse, la loi qui empêche les résidents du Nouveau-Brunswick de faire des provisions d'alcool provenant d'une autre province est constitutionnelle, a tranché unanimement jeudi la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal au pays, donc, ne libère pas la bière, comme certains l'espéraient, et ne chamboule pas non plus l'ordre constitutionnel canadien comme d'autres le supputaient. Depuis quelques jours, dans le contexte de la querelle entourant l'approbation du projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain, la décision découle d'une contestation d'un néo-brunswickois, Gérard Comeau, qui avait été intercepté en 2012 alors qu'il était en possession d'une quantité de bière et de spiritueux achetés au Québec, mais considérée trop importante en vertu des lois de sa province. Il était allé pêcher dans la loi constitutionnelle pour s'opposer à l'amende qui lui avait été infligée et invoquer l'article 121 du texte fondateur, arguant que celui-ci permettait le libre-échange entre les provinces et donc que la loi de la sienne brimait ses droits constitutionnels. La Cour suprême lui a donné tort. Les juges en sont venus à la conclusion que l'article n'impose pas de libre-échange absolu dans l'ensemble du Canada et n'interdit pas aux gouvernements provinciaux d'adopter des mesures qui ont des effets accessoires sur la circulation des biens d'une province à une autre. Les systèmes de gestion de l'approvisionnement agricole, les interdictions fondées sur la santé publique, les contrôles environnementaux et d'innombrables mesures réglementaires similaires qui entravent accessoirement la circulation des biens d'une province à une autre pourraient être invalides, mentionne-t-il dans l'arrêt signé la Cour. Alors voilà, ce sont les juges qui mentionnent ce que je viens de vous citer. Dans la section débat opinion attentat de Québec, une compréhension à géométrie variable. Il est important de réaliser qu'Alexandre Bissonnette est une image en miroir des tueurs islamistes. C'est Marie-Ève Coton qui signe le texte, un médecin psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Médecin psychiatre, je commente occasionnellement l'actualité dans les médias. Récemment, j'ai reçu plusieurs demandes d'entrevue au sujet du procès d'Alexandre Bissonnette, tueur de la mosquée de Québec. On me demandait notamment mon avis sur la lettre remplie de désespoir accompagnant son plaidoyer de culpabilité, sur le désarroi exprimé durant son appel au 911, sur les troubles anxio-dépressifs dont il souffrait et sur la possibilité que les antidépresseurs aient contribué à son crime. Toutes ces questions m'invitant à disséquer le mal-être de Bissonnette, me les aurait-on pareillement posées si le tireur s'était appelé Abdallah Ahmed Chaouche, entre parenthèses non fictif, et qu'il avait tiré sur des fidèles dans une église en criant « Allah » Aurais-je servi de la même manière à expliquer aux gens la souffrance personnelle de cet individu, à évaluer si un antidépresseur a pu précipiter sa tuerie, N'aurait-on pas plutôt convoqué des spécialistes pour discuter de terrorisme et d'extrémisme religieux? Aurait-on parlé sur toutes les tribunes et dans tous les forums de discussion des médicaments que prenait Abdallah Ahmed Chaouch? Il est tout à fait pertinent d'essayer de comprendre le geste d'Alexandre Bissonnette. Pardon, et je ne cherche pas à le déshumaniser, au contraire. Mais je m'insurge contre une compréhension à géométrie variable qui mène à une distinction entre nous, les « entre guillemets de souche » et eux, entre guillemets, les autres, musulmans, immigrants, etc. Bien sûr, elle est triste à pleurer, l'histoire de Bissonnette. Et elle est particulièrement touchante parce qu'elle est des nôtres, qui nous ressemble, ce qui nous permet de reconnaître plus spontanément son humanité. Or, il est important de réaliser que Bissonnette est une image en miroir des tueurs islamistes. Ceux-ci ne sont pas moins désespérés, apeurés, perdus et habités d'une colère qui cherche un objet sur lequel se déverser. C'est d'ailleurs ce qui les rend vulnérables aux rapaces qui incitent à la haine. Mais ils n'attirent pas aussi instinctivement notre sympathie, parce qu'ils ne sont pas nos semblables et que sur l'écran vierge de leur anonymat, il est facile de projeter le mal. D'autre part, où est la réflexion en profondeur au sujet de l'impact des discours haineux et islamophobes sur les plus jeunes vulnérables et influençables de la société québécoise? Entre parenthèses, que ces discours viennent d'animateurs de radio poubelle, de la meute, de certains chroniqueurs de grands quotidiens, de gens sur les médias sociaux, etc. Elle me semble impérative et j'espère que la question de l'association entre antidépresseurs et violence n'accaparera pas le débat au point de l'occulter. Surtout que les tueurs qui prennent des antidépresseurs n'ont pas fini de faire parler d'eux. 8 à 10 % des Canadiens consomment désormais ce type de médicaments, et les meurtriers étant rarement des gens heureux, il serait logique qu'ils en consomment dans une plus grande proportion. Que les médias débattent de leur rôle potentiel dans les actes violents est légitime, mais si cela les conduit à minimiser l'influence de l'islamophobie ambiante, c'est problématique. Sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, j'ai senti le besoin de rappeler que les tueries de masse existaient bien avant les antidépresseurs. Si on décidait collectivement d'humaniser davantage les immigrants, si la couverture médiatique des meurtres commis par des musulmans était la même que celle de la tuerie de Québec, si on s'intéressait à leur mal-être personnel, à eux aussi, sans les déresponsabiliser, est-ce que des gens souffrant comme Alexandre Bissonnette auraient plus de chances, avant d'appuyer sur la détente, d'avoir ce flash crucial? L'idée que là, devant eux, il n'y a fondamentalement ni une menace, ni une religion, mais de simples êtres humains, des gens qui ont peur et qui souffrent eux aussi. Je l'ignore, mais en ce temps de montée de la haine à l'échelle planétaire, en ces temps de montée de la haine à l'échelle planétaire, que faire sinon s'accrocher à cet espoir, à ce rêve? Alors c'était donc l'opinion de Marie-Ève Coton, médecin psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Baisse marquée des naissances en 2017 au Québec. Le Québec a enregistré une baisse marquée des naissances en 2017, le nombre de bébés ayant chuté de 3 % en un an, selon les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec. Le déclin que l'on observe depuis 5 ans pourrait s'expliquer par les compressions dans les programmes sociaux, comme les services de garde, avance un sociologue qui s'intéresse au phénomène. Après un lent déclin durant les années 90, le nombre de naissances avait recommencé à augmenter au début des années 2000. Mais après un plafond atteint au tournant des années 2010, un nouveau déclin se fait sentir depuis. Ainsi, le Québec a enregistré l'an dernier 83 900 naissances, soit 2 500 de moins que l'année précédente. C'est la baisse la plus marquée depuis 2012, observe Chantal Girard, démographe à l'ISQ. L'indice synthétique de fécondité, qui mesure le nombre moyen d'enfants que les femmes sont susceptibles d'avoir durant leur vie, a continué de reculer pour s'établir à 1,54. L'ISQ note toutefois que le taux n'est pas aussi faible que celui observé durant les années 80 et au début des années 2000, alors qu'il était inférieur à 1,5 enfants par femme. Alors, nombre de naissances au Québec. Un nouveau phénomène vient brouiller les cartes des naissances. Depuis plusieurs années, les démographes observent une baisse des grossesses chez les femmes de moins de 30 ans, mais celle-ci était compensée par une hausse chez les femmes plus âgées. Longtemps, les démographes ont cru à un changement de calendrier, à un report des naissances, indique Richard Marcoux, directeur de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone à l'Université Laval. Mais depuis 2 ans, on n'a plus la hausse chez les plus de 30 ans, constate Chantal Gérard. C'est comme si le phénomène de report, de compensation ne joue plus.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Serge Gainsbourg nous chantait Couleur café.
En une du Devoir, une photo de Fidel et son frère Raoul. Les frères Castro ont dirigé Cuba depuis la Révolution. Le Chagall aurait trouvé preneur au Canada, selon des acteurs du marché de l'art. Technopole Angus, un projet d'école fait polémique. Christian Iaccarini rêve d'une école gérée à l'extérieur du cadre actuel, mais publique et financée par l'État. La mélancolie des fins de parcours, l'immense legs de Miloš Forman, la chronique d'Odile Tremblay. Cannes, autour de Villeneuve d'être juré au festival. Et migrants, le Québec n'est qu'une étape pour plusieurs. Selon des acteurs du marché de l'art, la Tour Eiffel 1929 de Marc Chagall, que le Musée des beaux-arts du Canada, MBAC, aliène pour doubler son fonds d'acquisition, aurait non seulement pu, mais dû, pour des raisons patrimoniales, trouver preneur au pays plutôt que d'être envoyé aux enchères chez Christie's. Le tableau serait resté au Canada. C'est un aspect important. Le potentiel qu'il revienne par don dans un musée ou une collection publique aurait été réel, a indiqué l'une des importantes marchandes d'art au Canada, Myriam Schill. Parallèlement, plusieurs collectionneurs en seraient à remettre en question et même à stopper leurs dons à des musées, effrayés à l'idée qu'ils soient plus tard revendus. La ministre québécoise de la Culture, Marie Montpetit, a précisé mercredi en mêlée de presse à l'Assemblée nationale avoir demandé une procédure accélérée pour le classement patrimonial du tableau Saint-Jérôme de Jacques-Louis David, qui fait présentement l'objet d'une course à l'acheteur entre musées. Mélanie Joly, ministre de Patrimoine canadien, a de son côté estimé regrettable que la Tour Eiffel de Chagall quitte le pays, mais entend respecter l'indépendance du Musée des beaux-arts du Canada. Donc, au musée de défendre sa décision, a-t-elle conclu. Un nouveau modèle d'école géré comme au privé, mais financé par le public, proposé par la Société de développement Angus dans Rosemont, suscite la controverse. Et bien que l'école ne soit encore qu'au stade de projet, le gouvernement n'a pas encore reçu le projet et encore moins donné son aval. Les critiques débordent largement du quartier pour devenir un enjeu national, puisque pour aller de l'avant, ce projet nécessitera un changement à la loi sur l'instruction publique. Lorsque le projet de nouveau quartier résidentiel et commercial au Technopôle Angus a vu le jour en 2015, la Commission scolaire de Montréal a demandé aux promoteurs d'intégrer une école primaire dans ce secteur où les écoles débordent déjà. Le promoteur Société de développement Angus a acquiescé à la demande et s'est investi dans le projet d'école, un peu plus que ce à quoi les acteurs du milieu s'attendaient. Ce modèle de gouvernance proposé, c'est un dangereux précédent, soutient Pascal Grignon, du mouvement « Je protège mon école publique ». Les syndicats sont également furieux. « Ce n'est pas vrai qu'un promoteur privé va faire entrer des écoles à charte au Québec », dénonce la présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Louise Chabot. Ce genre de projet cache d'autres intentions, notamment celle de privatiser l'éducation. Questionné sur l'ouverture du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, à une modification de la loi sur l'instruction publique pour permettre à ce projet inusité de voir le jour, son attachée de presse, Marie Deschamps, reste évasive. Il n'y a aucun projet déposé à l'heure actuelle. Donc, point de suspension. À Québec solidaire, on fustige ce projet d'école hybride. Cuba, après les frères Castro, une nouvelle génération s'installe aux commandes de l'île, le nouveau président n'ayant pas connu la révolution. Le castrisme sans les Castro commence à Cuba. Le nouveau président de l'île communiste devrait être, en toute logique, Miguel Díaz-Canel. Il est le seul candidat proposé aux députés pour le suffrage indirect de ce jeudi, comme une trentaine d'autres candidats au poste du bureau politique du Parti communiste Dauphin, le Parti communiste cubain PCC. Le Dauphin de 57 ans succède à 60 ans de règne des frères Raoul, 86 ans, et feu Fidel Castro. Il devient le premier dirigeant de l'île socialiste qui n'a pas participé à la guérilla révolutionnaire de la fin des années 1950. La pauvreté nuit au traitement précoce contre le VIH. Pour freiner la propagation du VIH, les soignants du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, relanceront les patients qui manquent des rendez-vous ou disparaissent sans crier gare. Le docteur Jean-Pierre Routy, hématologue au CUSUM et chercheur spécialisé en matière de VIH, appelle ce projet « Lost and Found » ou « Perdu et retrouvé ». Ce sont ces personnes qui ne viennent plus nous voir qu'on veut retrouver, car ce sont elles qui nourrissent l'épidémie et qui maintiennent la transmission, explique-t-il. Le virus se transmet le plus dans les mois suivant l'infection si aucun traitement n'est amorcé. Les patients qui retardent le début du traitement sont aussi plus à risque de complications. Le docteur Routy vient de signer une étude avec des collègues dans laquelle on constate que les personnes les plus vulnérables d'un point de vue sociologique, socio-économique, soient celles qui dépendent de l'aide sociale ou d'autres programmes de sécurité du revenu, sont celles qui ont le moins accès au traitement précoce, c'est-à-dire en moins de 180 jours après un diagnostic de VIH. « Des CPE en grève, sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015, les syndiqués d'une soixantaine de centres de la petite enfance de Montréal et de Laval ont amorcé leur grève mercredi, hier, en faisant du piquetage devant les bureaux de l'Association patronale nationale des CPE dans l'Est de Montréal. Le débrayage qui se poursuivra jeudi, aujourd'hui, touche les parents de quelque 6 000 enfants. La caricature de Garnotte d'aujourd'hui dans la série « Les voyages du premier ministre canadien Justin Tin rencontre la reine de point de suspension ». Alors, la reine tout vêtue de rose et Justin tout vêtu de rose. Ils sont habillés pareil. Le climat social en France s'est crispé mercredi avec l'occupation de la prestigieuse école Sciences Po Paris par des étudiants mécontents d'une réforme qui s'ajoute aux tensions croissantes dans certaines universités et à la grève du rail. Ce creuset de l'élite qu'est Sciences Po Paris a notamment formé le président Emmanuel Macron. Près d'un an après son élection, le chef de l'État est aussi dans le collimateur des cheminots, dont certains l'ont sifflé mercredi lors d'un déplacement dans l'Est. 4 universités sur environ 70 sont toujours totalement bloquées et 11 autres sites perturbés sur environ 400 par des étudiants opposés à la loi réformant l'accès à l'université, accusés d'instaurer une sélection déguisée. Mercredi, la justice a ordonné l'évacuation de l'Université Paul-Valéry à Montpellier, bloquée depuis mi-février. Et le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a exigé mercredi que le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, vienne en personne s'expliquer devant les députés européens sur l'utilisation des données personnelles de ses millions d'utilisateurs. Merci d'écouter Le Quotidien des quotidiens. Hélène Denis avec vous. Restez avec nous dans un petit moment, une chanson et le retour de l'émission Revue de presse.
Thank you. ici.
Dumas et la pièce À l'Est d'Éden.
En une du Journal de Montréal, un périple de fou. Martin Trahan se prépare à traverser les États-Unis en canot, une expédition de 7650 km en 210 jours entre l'Oregon et la Floride. Rosalie, 2 ans, retrouvée morte dans une poubelle. Cannabis, des fournisseurs de la SAC dans les paradis fiscaux, la SAQ ici, bureau d'enquête. Le choc des idées, les chroniques de José Legault et de Michel Girard. La chronique de José Legault s'intitule « Les amis de Couillard » et celle de Michel Girard, « Des wagons gênants ». La moitié des fournisseurs utilisent les paradis fiscaux. Les contrats signés par la SAC, SAQ, seront revus si des irrégularités sont découvertes. Québec a conclu des contrats auprès de 6 entreprises pour approvisionner la Société québécoise du cannabis, SQDC, la filiale de la Société des alcools du Québec, la SAC, qui aura le monopole de la vente de pot au Québec. 3 de ces firmes qui fourniront 33 000 des 62 000 kg de marijuana qu'entend acheter Québec en 2018-2019, reçoivent des dizaines de millions de dollars en provenance de paradis fiscaux comme les îles Caïmans, la Barbade et les Bahamas. Il s'agit de Med Relief qui fournira 8 000 kg de pot, Aurora 5 000 kg et Hydropothecary 20 000 kg. Les contrats signés entre la SAC et ses firmes contiennent des clauses de résiliation, notamment si les entreprises ne se conforment pas aux vérifications de l'Autorité des marchés financiers, AMF, et prochainement de l'Autorité des marchés publics, précise le porte-parole de la SAC, Mathieu Gaudreau. Questionné quant à savoir si le gouvernement devrait faire affaire avec des compagnies qui reçoivent du financement des paradis fiscaux, le premier ministre Couillard a répondu hier « on ne veut pas ça, on veut faire des vérifications notamment lorsque des entreprises reçoivent des aides financières », a-t-il dit. Sommes provenant de paradis fiscaux dans les firmes ayant un contrat avec la SAC, Aurora, 200 millions, provenance Îles Caïmans, Barbade et Bahamas, Hydropothecary, 20 millions, provenance Îles Caïmans, Bahamas et Émirats Arabes Unis, Med Relief, 468 millions, valeur actuelle des placements des actionnaires installés dans des paradis fiscaux, provenance Panama, Israël. Source, documents déposés par les entreprises. Une mère de 2 enfants a obtenu le plus important montant accordé de pension alimentaire dans l'histoire du Québec et doit recevoir plus de 2 millions de dollars. La mère demande le maintien du statu quo quant au niveau de vie de la famille, niveau de vie qu'elle estime entre 8 à 10 millions par année. Peut-on lire dans le jugement rendu le 5 avril par la juge à la Chambre de la famille, Carole Allais? Le couple s'est rencontré dans les années 1990 à Paris, puis s'est marié en 2004 pour déménager à Bruxelles, en Belgique. Ils ont déménagé au Québec à l'été 2011 et ils ont fait l'acquisition de plusieurs immeubles, dont une résidence cossue, achetée au coût de 6 475 000 $. C'est en 2014 que leur relation a commencé à se dégrader. Ils ont 2 enfants âgés de 15 et 20 ans. Ils sont désignés sous les lettres A et Z afin de protéger leur identité. Le père de famille d'origine française dispose de 60 jours en date du jugement pour payer 2 millions de dollars à son ex-femme, qui est de nationalité marocaine. La juge Allais a également ordonné à l'homme de verser à la dame une pension de 75 000 dollars par mois, et ce, rétroactivement à la date de début des procédures, soit le 15 août 2014. La pension alimentaire pour les enfants frôle les 20 000 dollars les 20 000 $, c'est ça, par mois. Des arnaqueurs tentent de frauder les parents d'Ariel. Déjà affectés par la disparition d'Ariel, la famille Kouakou fait face à un nombre croissant d'arnaqueurs qui tentent de soutirer de l'argent en échange d'informations sur le garçon introuvable depuis plus de 5 semaines. Les gens qui tentent de profiter de la situation sont les plus malheureux, dit Kouadio Frédéric Kouakou, le père d'Ariel Jeffrey, 10 ans, disparu le 12 mars. Toute information peut être transmise anonymement à Infocrime au 514-393-1133, 514-393-1133. Il devra rembourser 17 453 à Sunwing ou 17 453 Chara Labos Sassios, 40 ans, a 3 ans pour rembourser la compagnie Sunwing qui avait dû débourser cette somme en juillet dernier. À l'époque, Nacios devait se rendre à Cayo Coco à Cuba. Avant d'embarquer, l'accusé avait bu plusieurs consommations. Par la suite, en plein vol, le Lavallois s'était montré si menaçant que les pilotes n'ont pas eu d'autre choix que de rebrousser chemin. L'armée de l'air américaine était même intervenue en envoyant 2 chasseurs F-15 pour escorter l'appareil. Nacios avait été arrêté à l'atterrissage de l'avion à l'aéroport Montréal-Trudeau. Il avait ensuite passé un peu plus de 3 mois en prison, puis avait plaidé coupable de menaces, de méfaits et de voies de fait. Les frais de 17 453 $ englobent l'essence, les frais d'atterrissage, le temps supplémentaire des employés ainsi que les frais d'hôtel pour les passagers, qui ont dû repartir le lendemain, avait expliqué la procureure. En plus, Nacios sera soumis à une probation de 3 ans, durant lesquelles il lui sera interdit de consommer de l'alcool. Le temps d'une photo, les députés de l'Assemblée nationale ont mis de côté le décorum habituel hier en enfilant un chandail de hockey pour exprimer leur solidarité à l'endroit de la communauté de Humboldt en Saskatchewan, durement éprouvée par l'accident d'autocar des Broncos, son équipe junior locale qui a fait 16 décès. Les élus du Parlement de Québec rejoignent de nombreux organismes, équipes sportives et assemblées législatives à travers le Canada qui ont fait de même au cours des derniers jours, en publiant une photo sur les réseaux sociaux sous le mot-clic « Jersey for Humboldt ». Un avertisseur sonore quand la benne est relevée. Plus de 25 000 camions de chargement devront se conformer. Québec exigera désormais que les camions de chargement soient dotés d'un avertissement sonore quand leur benne est relevée, en plus d'un témoin lumineux afin d'éviter un accident comme celui survenu sur l'autoroute 40 au début du mois. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a mis en place un comité composé de la magistrature, du directeur des poursuites criminelles et pénales et du barreau du Québec pour tenter de trouver une solution pour mieux protéger les jurés. Notre bureau d'enquête révélait lundi qu'il est possible d'identifier les membres d'un jury grâce au réseau social Facebook, alors que leur identité est censée demeurer confidentielle. En effet, lorsque des personnes fréquentent le même endroit, comme un palais de justice, pendant plusieurs jours de suite, Facebook propose à l'utilisateur de devenir ami avec elles. Il est alors possible de les identifier grâce à leurs photos de profil, par exemple. La comédienne Myriam Côté, qui a sauvé la vie d'un homme de Val-d'Or lors d'un voyage dans le Sud, pourra de nouveau profiter de la plage de Puerto Plata puisqu'elle a reçu un séjour gratuit pour son acte de bravoure. Le 30 mars, celle qui interprétait Avril Robertson dans l'émission Unité 9 a sauvé Lucien Blais de la noyade sur une plage de la République dominicaine. Pendant sa course dans la mer, elle s'est cependant cassé un orteil. Elle n'a donc pas bien pu profiter de son voyage au soleil. Quelques jours après que le journal eut publié l'histoire de Myriam Côté, le propriétaire du complexe VH Gran Ventana Beach Resort lui a envoyé un courriel pour lui offrir une semaine tout inclus pour elle et un invité. Et Israël a fêté hier son 70e anniversaire en brandissant sa puissance militaire et son improbable réussite économique face aux menaces régionales renouvelées et aux incertitudes intérieures. Après s'être recueillis depuis mardi à la mémoire de leurs compatriotes tués au service de leur pays ou dans des attentats, les Israéliens ont entamé les célébrations marquant la création de leur État proclamée le 14 mai 1948, mais fêtée en ce moment en fonction du calendrier hébraïque. Plus tard en soirée, des centaines de personnes sont descendues dans les rues du centre-ville de Jérusalem pour fêter et danser. Des feux d'artifice ont couronné les célébrations avec plus de 8,8 millions d'habitants. La population a décuplé depuis 1948 en Israël, selon les statistiques officielles.
J'attendrai.
Ibrahim Malouf avec Mélodie Gardeau nous chantait « J'attendrai ».
Les journaux régionaux, La Bombe lance la serviette pour les artefacts de Parc Canada, Annie Morin dans le soleil. Le maire de Québec, Régis La Bombe, considère être allé jusqu'au bout pour garder les artefacts de Parc Canada dans la capitale québécoise. Il est résigné à ce que la collection fédérale déménage à Gatineau, mais conserve tout de même son projet de méga-centre archéologique au pavillon Camille Roy du séminaire de Québec. Une visite des entrepôts de Parc Canada sur l'avenue Newton et dans Beauport a convaincu le maire de lancer la serviette. Ils n'ont pas d'argent. L'environnement n'a pas de sens pour la conservation. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir qu'on accepte Gatineau, a-t-il laissé tomber mercredi. L'idée que des artefacts aillent à Gatineau dans un environnement propice scientifiquement et qu'on inventorie chacun des artefacts de façon électronique, pour tous les chercheurs de Québec et du Québec, c'est un avantage, je le prends de même, a-t-il ajouté. M. Labombe a fait ressortir d'autres arguments déjà mis de l'avant par le fédéral et rejetés par plusieurs scientifiques, soit l'accès en tout temps à la collection et la possibilité de conserver des pièces d'intérêt à Québec. Dans la tribune, Tommy Brochu pédalait 8888 km pour aider. Et cette nouvelle a été publiée le 18 avril 2018, beaucoup de 8, mise à jour donc un peu plus tard, en soirée hier. Stéphane Reynolds n'a même pas entamé sa traversée du Canada à vélo, que 5 000 $ ont déjà été amassés pour la maison Aube Lumière et Autisme Estrie, les deux fondations qu'il supporte. L'homme de 50 ans prévoit parcourir 8888 km en 63 jours dès le 1er mai. L'avocat de profession se prépare depuis une décennie pour traverser le Canada en vélo. Il y a 10 ans, je pesais 40 livres en trop. Je me suis lancé un défi qui était plus grand que moi, c'est-à-dire de traverser le Canada à vélo. C'était un bon motivateur pour moi et je me suis donné 10 ans pour faire les étapes qu'il fallait pour y arriver. A-t-il mentionné avant la conférence ce qui était présenté du côté de Sherbrooke dans un concessionnaire de voitures? Est-ce difficile de se préparer pour un tel exploit? Je suis prêt physiquement, mais mentalement, lorsque je regarde dehors, Dame Nature qui nous joue des tours, je me dis qu'il ne faut pas que je me décourage et qu'il annonce du temps plus chaud. Je suis aussi prêt que je peux l'être à assurer M. Reynolds. Si M. Reynolds pourra dire mission accomplie le 3 juillet prochain, les fondations, elles, profiteront de son exploit. Les gens qui vont sur ma page cliquent sur le lien de l'organisme à qui ils veulent effectuer un don. Moi, je ne touche pas à l'argent. Je vais parler aux fondations pour orchestrer quelque chose de réaliste, mais aussi stimulant pour que ces fondations fassent des levées de fonds pendant que je pédale. Je n'ai pas un objectif d'aller vite, je veux le faire. Et à ce sujet, les Sherbrookois et tous les autres intéressés peuvent suivre le voyage de M. Reynolds et donner aux fondations au 8888km.km.org. Dans le quotidien, Patricia Rainville, 10 futurs policiers du Collège d'Alma s'envoleront pour la Belgique le 27 avril. Ce stage effectué au poste de police de Liège leur permettra de parfaire leurs connaissances sur la lutte antiterroriste, la police canine et la maîtrise d'un individu. L'automne dernier, deux policiers de Liège, Bruno van der Velden et Michel Terf, avaient visité les étudiants en technique policière d'Alma. Le quotidien avait d'ailleurs assisté à une réunion de travail organisée à la Sécurité publique de Saguenay, où des étudiantes et les policiers belges avaient été conviés. Ce voyage s'inscrivait dans un échange qui se poursuivait ce printemps. Depuis 7 ans, le département de technique policière offre à certains de ses étudiants volontaires de parfaire leur formation lors d'un voyage pédagogique en Belgique. L'école de police de Liège possède une expertise considérable en matière de lutte antiterrorisme, un volet qui est peu abordé dans les programmes de formation au Québec. Cette offre de stage s'avère donc une plus-value pour les participants. Ce bagage de connaissances supplémentaires vient compléter la formation du Collège d'Alma, a souligné Marie Harvey, responsable de la coordination départementale et enseignante en technique policière par voie de communiqué. Les futurs policiers passeront 10 jours en terre belge. L'étudiante Claudel Mercier, qui sera du voyage, entrevoit d'ailleurs l'expérience avec enthousiasme. Après plusieurs mois de préparation et à mener des activités de collecte de fonds, on sent une certaine fébrilité au sein du groupe. Pour ma part, je crois qu'il sera très enrichissant de découvrir de nouveaux aspects du métier de policier au contact de formateurs d'un autre pays. Leurs points de vue et leurs enseignements seront assurément intéressants, a fait valoir l'étudiant. Gatineau héritera de Joe Monferrand, c'est dans le droit Mathieu Bélanger, l'immense sculpture de Joe Monferrand que plus d'un million de visiteurs ont pu voir l'été passé au parc Jacques-Cartier lors de Mosaïque Canada, deviendra la propriété exclusive de la ville de Gatineau lorsque le rideau tombera sur les mosaïques culture de Gatineau 2018 en octobre prochain, a appris le droit. Ce legs est inscrit en toutes lettres dans le protocole d'entente entre l'organisation de la présidente Lise Cormier et la ville de Gatineau qui a été adoptée mardi par le conseil municipal. Le document dont nous avons obtenu copie précise que la ville sera responsable du transport en pièces détachées de l'œuvre vers un autre site une fois l'exposition terminée et que c'est elle qui en assumera l'entretien à l'avenir. Le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, avait déjà signifié son intérêt pour conserver cette œuvre, notamment en raison du lien historique qui lie ce personnage plus grand que nature à la région de l'Outaouais. Le protocole d'entente renferme aussi le montage financier proposé par les Mosaïcultures internationales de Montréal pour l'exposition prévue cet été. Alors, voilà, c'est tout. En ce qui concerne cette nouvelle, je vous ai lu les passages principaux. Et dans la nouvelle liste, François Houde, l'idée qu'a eue Culture Mauricie de réunir chercheurs universitaires et intervenants du milieu culturel régional continue de démontrer sa pertinence. C'est du moins l'impression qu'on a eue en voyant l'intérêt manifesté par des représentants des deux groupes dans le cadre d'un panel portant sur l'éducation non formelle dans les institutions culturelles qui avait lieu au Musée québécois de culture populaire mercredi. Alors, il y a une photo à côté de l'animateur de la discussion, le professeur d'économie Frédéric Lorrain de l'UQTR, les participants du milieu culturel qui participaient au panel sur l'éducation non formelle dans les institutions culturelles étaient de gauche à droite Dominique Leblanc, Valérie Thérien, René Paquin, etc. Ça va vite ce matin. Reste une demi-heure à l'émission Les actualités culturelles et les sujets libres après la chanson. Est-ce que vous pouvez nous présenter la chanson, Maurice? Ce sera quoi?
Oui, ça va être Arthur H.
Parfait, à tantôt.